10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. 35 départements au total sont donc en vigilance orange ce matin face à la tempête Ciara qui touche la moitié nord du pays. Selon Météo France, on attend des rafales jusqu'à 120 voire 140 km/h. Le plus gros de l'épisode est attendu ce soir, mais ce matin déjà il y a des vents, un phénomène qui provoque aussi un risque de vague submersion sur la Manche et la Bretagne. L'alerte enlèvement a été déclenchée hier soir pour tenter de retrouver un bébé âgé de 1 an. Vanille a été enlevée à Angers vendredi dans le Maine-et-Loire par sa mère, une femme de 40 ans qui aurait des problèmes psychologiques. La petite fille de type métis, mesure 1 mètre, aux yeux noirs, cheveux couleur brun foncé, court et frisé. Si vous localisez l'enfant ou la mère, n'intervenez pas vous-même et appelez immédiatement le 197, le 197. Le président de la Fédération des sports de glace, Didier Gayagué, a finalement annoncé sa démission hier après-midi. La semaine a été difficile pour l'ancien sportif accusé de n'avoir rien fait dans l'affaire des agressions sexuelles du patinage artistique. Tout est parti des accusations de viol de l'ex-championne Sarah Beatball contre son ancien entraîneur Gilles Beyer. Les faits remontent à 30 ans. Le coronavirus a provoqué la mort de 811 personnes et il y a au total 37 198 cas de contamination en Chine, un bilan supérieur à l'épidémie de SRAS qui avait causé 774 décès dans le monde entier entre 2002 et 2003. En France, je vous rappelle que 5 nouveaux cas ont été détectés dans la commune des Contamines-Montjoie en Haute-Savoie. 2 écoles resteront fermées toute la semaine prochaine. Et puis un soldat a été abattu hier par les policiers thaïlandais près de Bangkok. Le militaire a semé la panique dans le nord-est du pays en ouvrant le feu, notamment dans un centre commercial. Le bilan est lourd. Il y a au moins 26 morts et 57 blessés. Le suspect âgé de 32 ans a aussi publié une partie de l'attaque sur les réseaux sociaux. Les basketteuses françaises ont pris leur billet pour les JO de Tokyo. Hier, les Bleus ont dominé le Brésil 72-89 avant même la fin de ce tournoi de qualification contre Porto Rico. Enfin, le 15 de France veut faire un sans faute après la victoire contre l'Angleterre dimanche dernier en ouverture du tournoi destination. Cet après-midi, les Bleus affrontent l'Italie. C'est à partir de 16h.
De retrouver le sport avec Philippe Carnus, et bien voyons ce que le ciel nous réserve aujourd'hui. C'est un ciel qui va être bouché, nuageux, de très très rares éclaircies. Des rafales de vent à plus de 80 km/h. Dans l'après-midi, on devrait même atteindre les 100 km/h par pointe. Il y aura des averses. Les températures aujourd'hui, maximum 10 à 11 degrés.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport. Avec Philippe Carnu.
Effectivement, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche 9 février. Alors, ce matin, on l'avait entendu la semaine dernière chez nos amis de Sud Radio, et ce matin, il est chez nous, comme on l'a eu très souvent. Donc, durant sa mandature, c'est Gaël Barbotin. Gaël, bonjour, maire adjoint chargé des sports et des finances sur la ville de Rambouillet. Ça va, Gaël ?
Ah, très très bien, je te remercie. En tout cas, merci de cette invitation, puis je suis très heureux d'être avec vous.
Voilà, alors, on va faire un petit peu le bilan de vos 6 ans, parce que, comme je l'ai dit, les turpitudes de la vie politique font que il y aura pas d'autre mandat pour l'instant local, juste celui de conseiller donc régional jusqu'en 2021, peut-être la députation en 2022. En tout cas, donc on est là pour faire le bilan.
C'est me prêter beaucoup d'ambition, mais en tout état de cause.
Jamais.
On est journaliste. En tout état de cause, c'est un fait que depuis non pas 6 ans, mais depuis 12 ans maintenant au niveau de la ville de Rambouillet, avec notamment avec la confiance de Gérard Larcher, puis de Marc Robert, j'ai eu cette chance, je vais le dire comme ça, cette chance de pouvoir mener à bien à la fois une politique sportive qui, j'espère en tout cas, aura porté ses fruits. En tout cas, moi, c'est le constat que je fais, et quand j'en parle avec l'ensemble des responsables associatifs et des adhérents, en tout cas, il y a des retours qui sont très bons, et puis j'ai quelques éléments, j'irai quelque part chiffrés aussi, qui tentent à le démontrer. Et puis, au-delà de tout ça, bien évidemment, il y a eu la partie financière, mais ça n'est pas l'objet de notre matinée, mais quand on regarde, malgré les difficultés, malgré le fait qu'à un moment donné l'État nous ait savonné la planche, pour parler crûment, eh bien on se retrouve en fin de mandature avec un bilan positif qui permettra à l'équipe suivante, en tout état de cause, quelle qu'elle soit, bien sûr j'ai ma préférence, mais quelle qu'elle soit, de pouvoir partir sur de bonnes bases.
Alors, justement, si vous aviez un conseil à donner à votre successeur, homme ou femme, peu importe la liste qui sera choisie le 22 mars, ça serait lequel conseil ?
Ah, le premier des conseils, c'est d'aimer les gens.
Oui.
Le premier des conseils, c'est d'être porté vers ce que l'on peut apporter à l'autre. Et en toute transparence et en toute franchise, qui parfois est peut-être le plus compliqué, que j'ai de temps en temps été amené à expliquer à certains responsables associatifs, par exemple, vis-à-vis desquels il n'y avait pas forcément de réponse positive à leur apporter, pour tout un tas de raisons. Eh bien, en tout cas de cause, c'est déjà d'avoir la force de pouvoir le dire, dire non, c'est parfois ce qui est plus difficile pour un élu. Alors après, on peut être pris comme étant celui qui refuse. Non, à un moment donné, celui qui refuse, c'est celui qui a en même temps la possibilité d'analyser la situation et de prendre le recul nécessaire pour faire en sorte que, au bout du compte, tout le monde puisse s'y retrouver. Je crois que ce qui est important, c'est à chaque fois, au-delà d'aimer les gens, c'est d'avoir en conscience, de manière forte, le sens de ce que j'appelle, moi, l'intérêt général. Enfin, je pense que je suis pas tout seul à l'appeler comme tel, mais cet intérêt général qui va faire qu'on crée une dynamique globale. Et tout à l'heure, je parlais de chiffres. Quand je prends 2009-2010, on avait sur Rambouillet 7800 adhérents licenciés sur Rambouillet au niveau du sport. Je termine, parce que je pense que j'y ai mis un petit peu du mien quand même. Je termine ce mandat avec plus de 10 800.
Ah, bien,
10 800.
Bien.
Donc 40% d'augmentation, je dirais, des effectifs, malgré la conjoncture, malgré les terrains les créneaux disponibles sur certaines installations sportives qui ont été contingentées. Je suis heureux. Je vais pas dire je m'en satisfais, mais je suis très heureux parce que ça démontre à un moment donné que malgré les difficultés, quand on a le vouloir, eh bien on a le pouvoir de faire avancer les choses.
Oui, c'est bien. Aimer les gens, c'est exactement ce qu'on dit aux jeunes journalistes qui veulent faire comme nous. Hein. Si vous aimez pas les gens, vous faites pas des bonnes émissions de radio. Bah c'est pareil. Hein. Ouais. Je vous présente Stéphane Kahn, qui est revenu du Monte Carlo historique. Stéphane qui nous fera un petit peu le résumé de sa participation pendant 10 minutes. Stéphane, grosso modo, ça a beaucoup d'émotions.
Oui, une belle édition pour nous avec beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui ne sont pas forcément allées dans le sens où on voulait dès le départ. On a rencontré quelques problèmes, mais on a quand même fait plus de 3600 km, on a bouclé le rallye, on est classé, on a terminé, c'était un peu notre objectif. Et donc, on va débriefer un petit peu tout ça tout à l'heure. On est très content d'avoir en plus porté les couleurs de Rambouillet, on en parlait, de l'association et de RVE.
Avec la voiture RVE,
les autocollants RVE sur les portières. On va tout de suite remercier les Impériales aussi, notre sponsor de Rambouillet qui nous a aidés. Donc en fait, on a porté les couleurs jusqu'à Monaco. On est très content d'avoir rempli notre objectif qui était de terminer avant tout et d'amener enfin une Auto Bianchi à 111 au bout, ce qui n'avait jamais été réalisé. Donc dans l'histoire du Monte Carlo, voilà, c'est une première et c'était une grande et belle première. On en parle tout à l'heure.
Très bien. Alors, il y a deux événements aussi aujourd'hui importants. Il y a d'abord le 29e semi-marathon de Bullion. Ça a commencé donc à 9h45 sur les 21 km 100 pour les presque 1000 participants et participantes à cette édition. Et puis cet après-midi, à partir de 15h, le Variété Club de France viendra affronter une sélection des vétérans du Perret en Yvelines. Ça sera pour l'unité locale de la Croix-Rouge française de Rambouillet. Match à partir de 15h. Et puis je vais vous donner d'autres manifestations dans les prochaines semaines. Il y aura la 38e Coupe du Monde de Sabre Junior de Dourdan le week-end prochain. On connaît bien cette épreuve, on y est souvent allé par le passé. Ça sera les 15 et 16 février au gymnase Nicolas Billot de Dourdan. Donc ça sera l'occasion de voir ceux qui vont probablement peut-être briller dans les prochains JO, mais surtout ceux donc qui vont briller en 2024. Donc il y aura les épreuves individuelles le samedi 15 entre 9h et 17h, et puis le dimanche 16 entre 9h et 17h, on retrouvera les épreuves par équipe. La semaine d'après, il y aura le tournoi des As de basketball. Ça sera au gymnase Roger Antoine et Georges Castin de Palaiseau. Il y aura donc naturellement les demi-finales féminines qui se dérouleront à partir de 17h30, suivi des demi-finales masculines. Ça sera le samedi 22 février. Et le dimanche, il y aura la finale féminine à 13h15, suivi de la finale masculine. Et puis on rendra hommage au sport féminin, comme nous d'ailleurs la semaine prochaine, émission spéciale sport féminin sur l'antenne d'Herveux. Eh bien, ça sera donc le 22 mars au gymnase Jules Verne de Châtenay-Malabry. Il y aura une journée de 9h à 16h qui sera entièrement consacrée à des ateliers pour découvrir pour les féminines le tennis de table, atelier pour enfants de 4 à 7 ans. Donc, vous voyez, beaucoup d'événements qui arrivent dans les prochaines semaines. Gaël, s'il y avait une chose que vous n'avez pas accompli, que vous auriez aimé accomplir, ce serait laquelle? Quand vous allez finir le mandat, le bilan, il est positif, mais il y a une chose peut-être que vous auriez aimé réaliser que vous n'avez pas faite.
Oui, il y a une chose qui pour moi est importante, c'est de pouvoir faire en sorte, alors dans la dimension sportive, ouais, hein, toujours.
Oui.
C'est de pouvoir emmener notre territoire, je dirais, au sommet de la compétition. On le fait au travers de notre tissu associatif, et là, à ce niveau-là, je lui rends hommage, je dirais qu'on a de mémoire Cassandre, Gabriel, etc., qui sont portés au summum, notamment de la savate boxe française.
Elle sera la semaine prochaine, dans l'émission Sport
Féminin.
Sport
féminin, hein. Voilà. Etc.
Effectivement.
Donc, mais au-delà de tout ça, moi, je pense à notre territoire, et ce territoire, il a des atouts majeurs, et il est un fait que mon véritable souhait aujourd'hui, ce serait qu'il y ait une résonance qui lui permette à la fois de conforter sa notoriété au regard justement de cet environnement que nous avons su préserver avec l'ensemble des élus depuis maintenant 30-35 ans. Et ça, pour moi, ça c'est important. Alors je pense par exemple à la possibilité, avec un lieu emblématique qui se trouve à proximité, qui s'appelle le Haras des Brévières, par exemple.
Oui.
Ça, pour moi, c'est c'est quelque chose que je n'aurais pas réalisé sur ce mandat, sur lequel je n'aurais pas forcément de prise en tant qu'élu local sur le prochain mandat de fait. Mais pour moi, et on a des outils qui sont à notre disposition, qui sont des outils de rayonnement de notre territoire en matière à la fois sportive, mais en même temps en matière de reconnaissance de ce qui fait la spécificité de ce territoire, c'est-à-dire la nature, le cheval, et puis au-delà de tout ça, toutes les activités qui peuvent tourner autour. Donc moi, l'idée, c'est ça. J'aurais aimé que sur ce mandat, j'ai pu terminer là-dessus. Et puis ça m'amène derrière à une deuxième dimension, c'est d'avoir les confirmations qui seraient que nous pourrons être terre de jeu, non seulement terre de jeu au travers du label, mais de manière effective, oui, avoir cette possibilité de faire venir les Jeux Olympiques jusqu'à Rambouillet.
On va en parler, c'est le prochain grand objectif sur lequel vous allez travailler d'ailleurs, comme conseiller régional.
De toute façon, c'est pas parce que je ne vais pas sur le prochain mandat local que je lâche mon territoire. Je dirais que certains m'ont posé la question, mais Gaël, pourquoi c'est pas toi qui, etc. Non, la question ne se pose pas en ces termes-là. La question, elle se pose en termes d'enjeux. C'est comment est-ce que moi je peux répondre aux grands enjeux de notre territoire. Aujourd'hui, il est important que je puisse me concentrer sur des projets qui nous permettent de rayonner au-delà de nos propres frontières, de faire en sorte que ce soit un levier qui nous permette justement de préserver cet environnement dans lequel dont je parler tout de suite. Pour ça, on a quelques grands événements qui sont à mettre en avant. Il faut qu'on y travaille, notamment au niveau de la région, notamment au travers de mon mandat régional actuellement. Je sais que je fais un peu du forcing auprès de certains de mes collègues qui sont conseillers régionaux, mais aussi auprès de Patrick Caram qui est vice-président au sport.
Et puis j'embête un peu de temps en temps aussi
Valérie Pécresse, j'aime bien parce qu'elle prend ça avec humour et philosophie. Mais en tout cas, je ne lâche pas le morceau. Comme on dit, on a mis un jour au défi d'avoir quelque chose, une épreuve se rapportant aux Jeux Olympiques. C'était mon collègue de Versailles. Jean-Marc Fresnel qui me dit, en recevant un jour un trophée suite à Rio, en me disant, Gaël, tu vois, ce trophée, jamais tu ne l'auras. Mais c'est surtout ce qu'il ne faut pas dire à Barbotin. À partir du moment où on met au défi, et bien évidemment, je mets tout en œuvre pour le contrarier. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de faire, bien évidemment. Rambouillet sera présent au jeu. En tout cas, c'est le dessin qui est le mien aujourd'hui.
Vous avez le sentiment d'avoir été dans la lignée. Bon, nous, on est invés sur la radio. C'était Marc Robert et Marie-France Faure qui s'occupaient des sports. Après, on a eu Jocelyne Delecroix, on a eu Bernard Valette et puis André Réo. Vous êtes resté sur cette lignée, Gaël?
Alors,
ou ça a été un changement dans la continuité?
Il y a eu un vrai changement. Il y a eu un vrai changement qui est lié peut-être à une perception et aussi à une histoire personnelle. Je dirais que pendant plusieurs années, j'ai été membre du bureau de la Fédération sportive et culturelle de France, fédération affinitaire dont l'objet est justement de faire en sorte que au-delà des adhérents, les différentes disciplines puissent cohabiter et puissent s'investir par leur propre volonté. Ce schéma, c'est celui que j'ai essayé de reproduire sur Rambouillet, c'est celui justement de la solidarité et de la capacité à pouvoir en permanence partager des moments d'histoire entre les différents sports. Donc quand Gérard Larcher m'a proposé d'avoir cette délégation, ma première préoccupation ça a été de mettre des outils au service de cette idée-là. On se retrouve aujourd'hui avec par exemple sur Rambouillet des installations qui sont par nécessité partagées. Ça c'est un élément qui pour moi était important.
Ça a toujours été un problème ça.
Et je me souviens, pourtant on y est arrivé.
Tous les sportifs et sportives qui viennent
j'ai
à ce
mon
micro,
truc à moi.
Ils se sont souvent plaints des installations.
Mais on y est arrivé. Il fallait de la pédagogie, il a fallu du temps pour
pouvoir y arriver. C'est un des bilans positifs, c'est un des gros bilans positifs.
Ah mais pour moi c'est une vraie réussite et j'espère que mon successeur sera travailler dans cet esprit-là. Et la deuxième chose, c'est aussi la capacité à pouvoir libérer l'association, le tissu associatif de l'emprise municipale, de gagner en autonomie, de ne pas être quelque part contingenté au bon vouloir du versement d'une subvention, par exemple. Mmh. Et ça, c'est un élément qui était fondamental. Ce qui fait que les associations ont retrouvé quelque part le chemin de leur projet associatif. Ce qu'ils avaient pour certains perdu, pourquoi pas, et comment ça se traduisait, mais par le fait que les adhérents venaient consommer de manière pure et dure, je dirais, l'activité qui était mise à leur disposition. On leur disait, vous voulez faire du tennis, ok, ben on vient faire du tennis, on vient taper dans la balle, et puis l'esprit associatif n'était pas forcément sous-jacent, voire prédominant. Et aujourd'hui, c'est, je pense, tu parlais de réussite tout à l'heure. En fait, je pense que, objectivement, la vraie réussite pour moi aujourd'hui, dans le cadre de mon mandat, c'est d'avoir réussi à créer et à recréer l'esprit du bénévole au sein de l'association. On retrouve, par exemple, je prends le judo. Le judo, c'était il y a encore 5, 6, 7 ans, la ville doit installer les tapis, la ville doit installer les infrastructures, la ville doit ceci, la ville doit cela. Et en fait, on se retrouve aujourd'hui avec des parents qui, si on mettait la commune, je dirais, à contribution de manière forte, nous diraient mais laissez-nous faire. Et ben là j'ai gagné, on se retrouve avec des parents qui sont investis à la fois par rapport à leurs enfants mais aussi eux-mêmes dans la vie de leur propre de l'association qui leur permet de redécouvrir une vie sociale. Ça je crois que en ce qui me concerne, effectivement je réfléchissais mais je pense que c'est ma véritable réussite.
Donc tout est bon au niveau infrastructure. On se rappelle que le tennis de table avait rouge pété parce qu'ils n'avaient pas un toit réglementaire, il y avait le Racinet aussi qui avait des petits problèmes, on a refait les pelouses sur le jeu sur le Racinet puis de Vivonne, donc tout va bien.
Ben, tout va bien dans le sens, non, tout va pas bien. Tout va pas bien parce qu'il reste encore énormément de choses.
Ah bon,
Par contre, il reste, eh bien, par exemple, aujourd'hui, je parlais tout à l'heure du nombre d'adhérents licenciés.
Oui.
On a mené une politique aussi de féminisation. Je crois que c'est à l'ordre du jour la semaine prochaine.
Oui.
Par exemple, avec le foot, et certes, en lien avec, eh bien, on se retrouve aujourd'hui avec une association qui, il y a maintenant, 7 ans, et puis, je vais dire, était en train de péricliter. Il y avait des problèmes relationnels, internes, etc.
Souvent, malheureusement.
Là, on se retrouve avec une véritable dynamique.
Oui.
C'est la conséquence aussi d'un travail de fond qui a été mis en œuvre avec les dirigeants associatifs, mais qu'il a fallu convaincre. Et malgré tout, je crois que il a fallu de temps en temps tordre un petit peu le bras de telle manière qu'on puisse avancer pour que, comme je le disais tout à l'heure, on ait des installations partagées. Je pense au Racinet où on se retrouve avec un synthétique. Ce synthétique, il a une prédominance, on va dire, rugby, avec la possibilité de faire du foot à 8. Ça a permis au foot de dédoubler ses activités, de dédoubler, je dirais, sa capacité d'entraînement, notamment par rapport aux jeunes, de créer cette école du foot et de faire en sorte aujourd'hui aussi d'accueillir les féminines en ayant soulagé les terrains qui sont des terrains en herbe, etc. Donc là, on a une véritable stratégie qui a été mise en œuvre et aujourd'hui, nous sommes, prêtons l'idée que les choses continuent à avancer et puis que nos successeurs soient dans la même lignée que celle qui a été mise en œuvre jusqu'à présent. Nous sommes en train de voir avec la région pour pouvoir travailler sur la mise en place d'un troisième terrain synthétique, sachant que quand on met en place un terrain synthétique, alors il y a eu des problématiques liées à l'analyse des caoutchoucs, etc. Il faut savoir que les normes que nous avons instaurées au niveau de la région nous permettent d'avoir du caoutchouc qui est de qualité alimentaire. Donc, à ce niveau-là, on a plus vraiment de soucis par rapport aux autres terrains dans d'autres régions, voire dans d'autres pays. Mais en ce qui nous concerne, ce terrain synthétique nous permettra de démultiplier la capacité d'accueil. Ce serait intéressant de pouvoir l'avoir dès 2021. Mais faut pas perdre de temps maintenant. Il a fallu préalablement, c'est pour ça que j'avais amené quelques chiffres aussi, parce que par rapport au budget, il a fallu être extrêmement vigilant sur le budget. Aujourd'hui, on a récupéré, Rambouillet a récupéré ses capacités de financement. Pour être très clair, il y a environ 50 millions d'euros qui peuvent être disponibles à charge constante et recette, je dirais, évaluée constante, sur la prochaine période. 50 millions, on peut en faire des choses, quoi.
Oui, les gymnases vont bien, les salles vont bien. Je me souviens qu'il y a eu une salle pour Rambouillet Olympique qui a été inaugurée il y a quelques années. Il y a eu la salle Simon aussi au Racinet. On a suffisamment au niveau salle ou alors...
Alors, on est à saturation.
Par exemple, sport comme l'escrime qui demande des...
Oui, alors pour l'escrime, alors ça tombe bien parce que je suis... Là, il y a des idées aussi qui sont à travailler. Moi, je suis là pour transmettre les idées, faire en sorte que le successeur puisse s'inscrire dans cette continuité. On est en train, je me suis organisé pour pouvoir faire en sorte que sur Rambouillet, nous ayons la première association de pentathlon moderne. Alors, c'est pas une association à qualité, c'est une section de Rambouillet Sport qui pour laquelle, justement, ça rentre dans son objet de pouvoir faire en sorte de développer l'activité de compétition. La toute première compétition, je dirais, qui a été mise en œuvre au sein des Jeux Olympiques, les Jeux modernes, c'était lié, on va dire, au sport de combattant. Donc c'était l'escrime, c'était le cheval,
la lutte.
Donc il y a 5 disciplines dans le pentathlon moderne, et l'idée, ça a été de dire, est-ce que Rambouillet peut devenir le fer de lance des Yvelines au sein de la région pour faire en sorte d'accueillir, en tout cas, des activités liées aux Jeux Olympiques dans le cadre du pentathlon moderne, qui répondent en même temps à l'environnement dans lequel on est. On a cette section, il y a aujourd'hui une vingtaine d'adhérents, c'est un club qui fonctionne, c'est un club, c'est le seul des Yvelines, les autres, ils sont embryonnaires, c'est-à-dire que... Donc on a une véritable chance. Et à partir de ce moment-là, qui dit escrime, eh bien dit nécessité, dans le cadre des Jeux Olympiques, d'avoir une réponse à apporter. Alors j'ai quelques idées, ces idées je les transmettrai bien évidemment à celui qui prendra la suite au niveau du sport, mais évidemment il nous faut une installation qui se pérennise. Actuellement on a une installation qui est temporaire, c'est-à-dire que nous avons Christophe Bell qui vient avec son matériel, qui met son matériel pour évaluer les touches, il les installe, donc c'est très bien, ça fonctionne très bien. Il y a plus de 100 adhérents au sein du club, j'irai d'escrime, et à partir de là, il y a une véritable dynamique qui s'est mise en place. Donc aujourd'hui, il faut l'asseoir, il faut la conforter. Sur le vieux moulin, on peut très bien imaginer dans l'ancien gymnase des aménagements qui permettraient de pouvoir le faire et de déplacer, pourquoi pas. Il y a une opération à tiroir à faire de telle manière qu'on puisse redonner au club des unités de vie qui leur permettent de partager en même temps le même sens du sport, je dirais, quelque part.
Oui. Alors, il y a l'hippodrome qui fonctionne plutôt bien, ça c'est bon.
Ah oui, l'hippodrome fonctionne.
Même s'il y a un projet de golf aussi.
Alors, mais c'est non seulement même s'il y a un projet de golf, c'est justement,
fonctionne très bien,
il y a aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir un projet de golf. Donc c'est un off-tour qui est envisagé, qui est le golf, alors, le terme m'échappe, c'est classique, hein, c'est la possibilité justement d'avoir le plus haut niveau possible en matière de qualité pour pouvoir attirer des personnes qui sont férues de golf et pas simplement d'avoir un practice et puis la possibilité de faire des entraînements. Non, l'idée, c'est vraiment de travailler sur un très, très, enfin, c'est un très très beau projet. Je le suis avec Bernard Marie. Donc là, il y a une ouverture possible à la fois auprès des scolaires et bien évidemment, on va dire des quasi professionnels. Il faut savoir que la Ryder Cup a généré derrière une espèce d'élan, enfin en tout cas une reprise de conscience de la capacité à pouvoir développer ce sport qui est un sport magnifique que je ne pratique pas, mais parce qu'il faut avoir le temps, il faut pouvoir le faire si on veut bien le pratiquer, faut le faire avec régularité. Et puis c'est vrai que je sais que quand on est rentré dans le circuit du golf, ça devient presque addict. Donc aujourd'hui.
Nous on en parle tous les mois avec Fabien Donovan qui est là chaque mois. Avant d'envoyer la pub, le couac, c'est la piscine, Gaël. C'est le gros couac, ça.
Alors la piscine, c'est un projet tout à fait particulier. Alors moi,
c'est un peu un serpent de mer, quoi.
Non, c'est bon.
Non, ben si.
Oui, tu sais.
Pas grand public, hein, moi. Ouais, ouais.
La piscine, c'est une difficulté. C'est un outil structurant sur un territoire. Faut savoir que quand on met en place une piscine, l'objectif, c'est d'apporter des réponses à trois types de publics. Le premier public, c'est le public des scolaires. Il faut apprendre à nos jeunes à nager. Nous avions avant, je dirais, avec l'ancienne piscine, la possibilité. Nous avions environ 95%. 5% de jeunes arrivés en 6e qui savaient nager parce qu'ils suivaient les cours, etc. Bon, avec les travaux, les difficultés qu'on a pu rencontrer, le taux de pratique et de capacité à savoir nager, ou à se débrouiller dans l'eau en tout cas, bon, a chuté évidemment. L'objectif, c'est de remonter dans les 97-98%. Et pour ça, il nous fallait un bel outil. Ce bel outil, il fallait qu'il puisse répondre à un cahier des charges lié justement en premier lieu à cette capacité d'apprentissage, et le deuxième, c'est la capacité à développer la compétition. Donc pour développer la compétition, en lien avec ce qu'on peut voir sur Chartres, avec voilà, un bassin de 50 mètres.
Très belle piscine, Chartres.
Voilà, mais l'idée c'était d'avoir un bassin de 50 mètres qui permette d'identifier la piscine de Rambouillet comme étant potentiellement, je dis bien potentiellement, olympique. Pourquoi ? Parce qu'il y a 9 couloirs, il en faudrait 10 pour vraiment faire les épreuves, mais dans le cadre du pentathlon moderne, la natation est utilisable, et si on est centre de préparation aux Jeux, ce à quoi j'aspire, j'irai vraiment de toutes mes forces, eh bien, la piscine est un très, très, très bel outil, qui plus est, qui est directement attenant aux installations terrestres, c'est-à-dire la capacité à faire du laser run et à faire, justement, on en parlait tout de suite, à faire l'escrime. Il y a juste la partie équitation qui serait un petit peu déportée. Pour ça, ça dépend clairement, et là je le dis, mais avec le plus grand sérieux, ça dépend de la capacité du département à intégrer le principe que pour faire venir dans le Sud-Yvelines le pentathlon moderne, il nous faut, et ça j'insiste, il nous faut absolument pouvoir disposer d'une installation dont aujourd'hui le département est propriétaire par donation par le ministère de l'Agriculture maintenant, au moment où il fallait mettre en place les haras nationaux. Donc moi, ce à quoi j'aspire, c'est que demain on puisse vraiment travailler sur ce projet de faire du haras des Brévières un outil central du développement à la fois des sports de nature, de pleine nature, et notamment aussi la capacité à pouvoir développer la filière équestre. On a eu sur Maison Alfort, nous avions l'école vétérinaire,
oui.
Voilà, qui vient de déménager, qui vient de partir dans les Hauts-de-France, à Franc, je sais plus, j'ai plus de nom d'intérêt. Donc on vient de perdre, là-bas ils ont développé un projet à 35 millions d'euros. L'objectif, c'est de former, je dirais, nos futurs vétérinaires dans la filière équine et équestre. Et il ne faudrait pas que demain, on se retrouve avec un territoire qui porte le cheval en lui. C'est-à-dire que nous avons la première terre de cheval à la fois dans le département, mais quasiment en France, avec justement la Normandie. Mais il ne faudrait pas qu'on nous dise, enfin que nous soyons déshabillés, je dirais, dans ce potentiel. Quand on garde le cheval, je termine juste là-dessus, si on garde le cheval, on garde notre environnement, celui pour lequel nous sommes plébiscités pour pouvoir faire pour la nature qui nous entoure et le fait d'avoir su préserver à la fois l'esprit village et l'esprit de la ruralité.
Eh ben c'est très bien, Gaëtien. Pour la peine, vous allez nous envoyer la pub. Allez.
Mais maintenant, place à une page de pub.
Vous vendez, vous louez, DPE Amiante Plomb, Loi Carrez. Agenda Diagnostic, leader du marché, diagnostique vos maisons, appartements, immeubles, commerces et bureaux. Profitez de l'expérience du premier réseau de diagnostic immobilier au meilleur prix. Agenda Diagnostic Sud-Yvelines, 01 34 83 80 10. www.agendadiagnostic.fr.
À Rambouillet, 14 bis rue Châles, SMA Fenêtre, votre spécialiste de la menuiserie extérieure, vous invite à venir découvrir son showroom et toute sa gamme de fenêtres. Store, volets, portes et portes de garage. Sur mesure, en PVC, bois ou aluminium. SMA Fenêtre vous propose des produits adaptés à vos besoins pour isoler, chauffer votre maison tout en réalisant des économies. Alors, pour un devis gratuit, contactez votre spécialiste SMA Fenêtre, 14 bis rue Châles à Rambouillet, au 01 30 88 62 32.
Vous voulez vendre, acheter un bien sur Offargis, Le Perret ou Vieille Église? Appelez Pierre Burtel, votre agent conseil en immobilier, au 06 43 27 13 08 et bénéficiez des honoraires réduits de l'agence ImmoJust. Pierre Burtel au 06 43 27 13 08.
RVE 103.7.
I've been trying to call, I've been
Sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport avec Philippe Carnu.
Et puis cette émission, bah, elle sera en podcast, hein, vous pourrez la retrouver très rapidement dans le courant de l'après-midi, comme toutes celles depuis le début de l'année 2020, comme toutes celles de 2019, et puis même encore donc le podcast concernant l'élection de la Reine. Hein. On a eu l'occasion de recevoir, il y a 15 jours, Stéphane Caen, donc, bah, gentiment, il est venu, c'est comme ça, Stéphane, nous dire.
Après 3600 et quelques kilomètres, voilà, quand même.
Je vais te raconter ce qui s'est passé. Je vais te raconter ce qui s'est passé pendant 15 jours avec le Monte Carlo historique. Alors, Stéphane, dites-nous tout.
Eh bien, quelle épopée, quelle histoire, quelle aventure. On voulait revivre un petit peu les rallyes des années 60, début 70, les marathons de la route. Et on n'a pas été déçus, oui, parce qu'on a vécu une aventure assez incroyable. La voiture, on l'avait bien préparée. On était venu ici pour en parler. On avait quand même...
La voiture RVE. Hein,
la voiture RVE,
engagée au Monte Carlo historique.
Voilà, la première auto Bianchi à 111 à refaire le Monte Carlo. Donc on était plutôt confiants, même si les sports mécaniques, il y a toujours les aléas de la mécanique, justement. Et puis on va en parler, malheureusement, on était pendant tout le rallye, on a rencontré des problèmes, mais ça n'empêche que la grande famille du rallye nous a aidés. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est surtout une épreuve où tout le monde se soutient. Les amateurs, de très bons professionnels, sont là aussi, même s'ils sont pas là avec des structures professionnelles. Mais donc on avait parlé de Walter Roll, Bruno Sabi, Carlos Tavares, les grands noms même du sport automobile, de rallye de régularité était présent, mais tout le monde était là pour nous soutenir, nous aider, nous encourager, et voilà, donc on a été satisfait de revivre cette aventure qui avait donc mal commencé dès le vendredi matin avec
un souci de démarrage. Vous avez failli pas partir, c'est incroyable quand même.
Voilà, ce que je disais, la voiture était bien préparée, et pourtant le vendredi matin en partant, le démarreur a lâché.
Ouf.
Donc manque de bol.
Partir sans démarrer.
Ah ben, on cherche les solutions et on se dit qu'est-ce qu'on fait. Alors, On était un peu déçus au départ parce que les conditions climatiques, on voulait rencontrer de la neige, de la glace, des conditions difficiles. Et comme tout le monde le sait, bah depuis 10 jours, c'est l'été un peu partout en France.
Oui, parce que c'est devenu un rallye. Monte Carlo, c'est un
Monte Carlo sur la neige. Hein. C'est effectivement bah voilà. C'est un rallye hivernal et ça et s'est transformé en rallye un petit peu printanier. Mais ça nous a pas mal arrangé parce qu'au bout du compte, on a essayé de réparer le démarreur. On a un ami qui nous suivait et qui a réussi à trouver un démarreur à Angoulême. Donc lui, il s'est fait pendant que nous on est parti à Reims à la poussette pour passer les vérifications qu'on a passées juste, mais on était admis au départ. Sur les 310 concurrents qui étaient inscrits, 304 ont été admis au départ, dont la 111, et on était les avant-derniers à passer au contrôle, donc c'était juste. Hein. L'Automobile Club de Monaco nous a appelé pour savoir si on venait toujours, donc comme quoi c'était juste. Et pendant ce temps-là, notre ami est parti à Angoulême chercher un démarreur et nous a retrouvé en fait à Buis-les-Baronnies, qui était le terme de la concentration là dans la Drôme provençale, et nous a amené ce fameux démarreur. Donc on passe les vérifications à Buis parce qu'il fallait absolument passer sous la tente de l'ACM pour nous mettre la balise GPS qui va nous suivre pendant tout le rallye. Et là on a décidé en fait de court-circuiter les deux premières zones de régularité pour aller réparer ce démarreur qu'on venait de récupérer. Donc on a trouvé, grâce, c'est ce que je disais tout à l'heure, à la solidarité des amis du rallye, je sais pas s'ils nous écoutent, mais je remercie toute l'équipe du RAC et tous les fans de sport automobile de la région de la Drôme qui nous ont accueilli. Donc on a eu un pont à disposition, on a pu mettre la voiture dans un garage, on avait donc une caisse à outils dans le coffre et on s'est mis à démonter la voiture pour changer le démarreur. Sauf que l'Autobianchi à 111, c'est pas prévu, c'est pas une voiture de rallye, et quand on a commencé à démonter, on s'est rendu compte que le chantier était assez quand même important et que le temps d'un rallye, une fois que le rallye est parti, il faut pointer toujours à l'heure.
Eh oui, vous avez un temps imparti.
On a un temps imparti,
hein.
Et le problème c'est qu'en fait notre temps imparti dépassé d'une demi-heure, on était mis hors course. Donc au bout d'un moment, en bon copilote que je suis, là je me lance des fleurs, mais je voyais le chrono dérouler, donc au bout d'un moment j'ai dit non, on arrête. On avait quand même fait 2-3 améliorations sur la voiture, notamment au niveau électrique, on avait quand même pu la régler un petit peu mieux, et donc on a pris la décision de tout remonter et de pointer à l'heure au CH suivant pour ne pas être mis hors course. Et en fait, donc on s'est pris beaucoup de points de pénalité. Ceux qui nous ont suivis ont peut-être pas trop compris pourquoi est-ce qu'on était dans les derniers, hein, dès le premier jour. Mais c'était un choix. On a préféré assurer, régler la voiture au mieux pour finir le rallye, sachant qu'on n'avait plus de démarreur. Donc il ne fallait surtout pas caler. Donc on a réglé le ralenti un peu plus élevé. On a fait en sorte d'optimiser les chances pour pouvoir arriver au bout, parce qu'on partait quand même pour une aventure. Là, on avait juste fait 1000 km, il nous restait plus de 2500 km à faire, à la poussette. Donc on a poussé la voiture pour démarrer à chaque fois pendant tout.
Et vous êtes allé au bout.
Et on est allé au
bout.
Vous
avez fait, vous avez rempli le contrat. Donc on a terminé combien?
Alors on termine 237e sur un peu plus de 300 au départ.
Devant Walter Rohr.
Alors en fait,
ancien grand champion.
Exactement. Donc Walter Rohr, en fait, pour la petite histoire, le reclassement se faisait après les 5 premières ZR. Et en fait, en retirant les pénalités. Donc on avait un temps, on s'est pris un temps imparti pour les deux premières qu'on n'a pas fait, mais par contre on a plutôt pas mal marché dans les autres. On a notamment été 70e dans la 5e, on a fait une autre fois 50e, et encore quand on regarde 50e, c'était 36e temps ex-aequo. Donc finalement, quand les conditions de route nous le permettaient, quand il n'y avait pas un grand col à monter, parce que bon, malheureusement notre voiture c'est pas un avion de chasse, donc dans les côtes on avait un petit peu de mal à monter, mais lorsque c'était plutôt plat et qu'il fallait réguler, on n'était pas trop mauvais. Et donc dans le reclassement, on s'est retrouvé avec Walter Rohr juste derrière nous. Donc c'était un bonheur. Au début, je disais faire un rallye avec Walter Rohr, mais en plus être devant lui. Et donc j'ai quelques photos où il est vraiment derrière nous et j'allais le voir. Il se laissait prendre en photo. C'est quelqu'un d'adorable. Il a pas arrêté de répondre à toutes les sollicitations. Beaucoup de personnes ont pris des selfies avec lui. Il a signé des autographes. Enfin bon, c'était un grand moment. Donc voilà, vivre un rallye avec Walter Rohr qui après, par contre, une fois qu'on a fini les zones de régularité, nous dépassait dans sa magnifique Porsche au bruit phénoménal sur les parcours de liaison. Bon, ça reste un grand moment de ce rallye, un grand bonheur.
En tout cas, une belle aventure humaine. Vous repartez l'année prochaine, Stéphane ?
Oh ben maintenant, alors c'est une question de temps, de budget, de voiture. Nous, on aime bien aussi faire des bon avec Benoît qui nous écoute et puis je le salue et
qui était là il y a quelques semaines,
il y a 15 jours et bon, donc on en discute. Oui, nous on aime bien les challenges. On n'a pas envie de refaire forcément le rallye dans ces conditions-là parce que c'était quand même assez difficile et éprouvant. La voiture, on l'a poussée à ses limites. Elle avait tendance aussi un petit peu à chauffer. On a eu des problèmes de carburation, donc il a fallu lui retrouver un autre garage où on a démonté tout le carburateur et refaire la synchronisation, mettre un filtre à essence, enfin... Bon, on a soulevé beaucoup de choses. Alors maintenant, elle est fiable. Hein. Après 3600 km, c'est une très bonne voiture. Mais elle est un petit peu limite par rapport aux routes de l'arrière-pays niçois. La dernière nuit, on était en retard tout le temps, mais on pouvait pas faire mieux. C'était, voilà, dans les descentes, on récupérait. La dernière zone de régularité, c'est le Turini. On part toutes les 30 secondes. Donc dans la montée, il fallait soulager un petit peu la voiture. On voulait finir. Donc il y a six concurrents, dont Carlos Tavares, qui nous ont doublés. Et par contre, le col du Turini, en arrivant là-haut, on n'avait plus... de problèmes, en fait, c'était la dernière ZR, on n'avait plus qu'à descendre jusqu'à Monaco. Donc là, bah, j'ai passé le col un petit peu rapidement, et dans la descente, je me suis régalé. Donc là, j'en ai redoublé trois. On s'est fait plaisir, et on finit justement derrière la voiture de Carlos Tavares. Mais c'est un peu éprouvant de faire le yo-yo, voilà, d'avoir une voiture qui perd du temps dans les côtes, qui en récupère dans les descentes. Donc là, faut aller assez vite, faut pas avoir peur d'en mancher, comme on dit. Donc voilà, si on devait le refaire, ce serait peut-être, alors pas une voiture trop moderne, parce que beaucoup l'ont fait avec des Golf GTI, des Porsche 924, c'est pas trop l'esprit pour nous du Monte Carlo historique. Par contre, refaire avec une voiture voilà, bien un peu plus puissante que celle qu'on avait cette fois, mais pour revivre un peu une aventure humaine de la sorte, oui, ben bien sûr, on est partant. Qui ne serait pas partant?
Très bien, ben, le rendez-vous est prévu, on va nous en reparler. Merci en tout cas, Stéphane. Gaël, belle aventure humaine, hein.
Oui, à l'image de ce que le sport donne. Les voitures, c'est aussi un petit peu mon truc, quoi. ouais, la semaine prochaine, peut-être que je courrai le Monte Carlo dans quelques temps avec ma future deux chevaux de 59.
Et pourquoi pas, voilà, il y a une deux chevaux, une Diane. Ah, et il faut vivre l'aventure.
Bon, Marc, oui. Ça m'emmène au niveau des événements. Hein. Ouais. Bon, on a eu un été que personne n'oubliera. Hein. J'allais dire, on l'emmènera avec nous dans nos tombes, un été sportif. Tout le monde connaît la ville de Rambouillet.
Tout le monde connaît la ville de Rambouillet à l'échelle planétaire. Alors à un moment donné, je dirais dans le siècle passé, c'était lié à la dimension politique, hein, de la ville, avec tous ces grands chefs d'État et tous ces grands sommets qui ont eu lieu, y compris les accords, la recherche des accords avec le Kosovo, etc. On a vécu, je dirais, Rambouillet a été mis sur le devant de la scène, mais là, ça a été sur le sport. Et là, c'est pour moi, allez, j'ai souvent tendance à dire humilité pour soi et ambition pour les autres, mais là je vais quand même sortir un peu de ce, voilà, puis pousser un petit cocorico perso sur la mobilisation qui a été accompagnée par l'ensemble des associations, par les bénévoles, par l'ensemble des professionnels qui ont tourné aussi autour de ces projets. Il y a eu 3-4 grands projets cet été qui ont permis de faire découvrir Rambouillet in situ pour près de 90 000 personnes quand même, ce qui n'est pas rien. 55 000 on va dire avec le Tour de France, et puis le reste réparti avec l'Équirando qui justement avait trouvé sa base arrière sur le Haras des Brévières, et puis la Paris-Brest-Paris qui a été un événement extraordinaire qu'on n'a peut-être pas suffisamment encore valorisé en termes de retombées, notamment de retombées économiques. Je dirais les commerçants de leur côté ont trouvé un bonheur. C'est-à-dire que le mois d'août, qui est généralement un mois où Rambouillet se vide de sa population, nous nous sommes retrouvés cette année avec une population globalement gonflée à 3 fois son volume, répartie sur l'ensemble du mois d'août. Et ça, ça a été important. Et la quatrième manifestation, elle est pas sportive, mais elle était sportive à mettre en œuvre malgré tout. C'était le 75e anniversaire de la libération de Rambouillet puis de Paris, avec notamment la venue de véhicules assez exceptionnels qui ont participé soit au débarquement, soit à l'arrivée sur Rambouillet, il y a un peu plus de 75 ans donc maintenant, et qui a marqué aussi Rambouillet de manière forte. D'ailleurs, nous sommes devenus, je dirais, Rambouillet, la référence, pour être très clair au niveau de l'Île-de-France, la référence en matière d'organisation de cérémonies militaires et patriotiques, qui a été notamment par l'association de la Légion d'honneur, saluée par l'association d'entraide des membres, non plus d'entraide maintenant, mais enfin des membres de la Légion d'honneur. Ce qui est important, c'est ça, c'est qu'on puisse créer cette dynamique et qu'on puisse s'en servir pour rebondir.
Espère que Paris, ça sera encore en 2023. Bon, ça sera plus compliqué, parce que ça sera Montigny-le-Bretonneux en 2023. Mais pour Paris-Brest-Paris, pourquoi pas?
Alors ça y est, pour Paris-Brest-Paris, c'est quasiment enclenché. On a quand même quelques atouts. C'est justement ce que je voulais. Ah oui, c'est quasiment enclenché. Maintenant, il faut pas faire de bêtises, je dirais. Mais ce qui est important, c'est de savoir que le site tel qu'il a été mis en avant. Alors il y a des aménagements, des améliorations à faire. On a fait, c'était une première où on reçoit quand même, il y a eu 7800 préinscrits, 7000 personnes au départ. On a eu des gens qui viennent du monde entier. Moi j'ai vu des Indiens débarquer sur leur oui. vélo avec des avec des tongs. Enfin c'est incroyable.
Gaël, on peut retrouver tout ce bilan dans l'émission du 15 septembre.
Ah,
on en avait parlé le 15 septembre.
C'était fabuleux.
On parlait des podcasts, on peut aller réécouter sans aucun problème.
Alors maintenant ce qu'il faut, c'est que les Rambolitains s'approprient cette manifestation et fasse que le mois d'août devienne un mois où la vie sur notre territoire continue et perdure, je dirais, à l'instar de ce qui se passe dans l'année. Donc pour ça, on peut s'appuyer aussi sur des structures, je pense qu'il faut pouvoir, auxquelles il faut pouvoir donner peut-être une nouvelle dimension, en tout cas en termes d'attractivité et de préservation du territoire. Je pense à l'ONF, je pense notamment aussi au parc naturel régional pour lequel il y a des enjeux qui sont forts en matière à la fois de préservation mais aussi de développement économique. On travaille sur ces deux notions, je dirais, puisque je représente, je suis un des représentants de la région au sein du parc naturel. On travaille sur ces domaines-là, préservation du patrimoine. Et pour ce faire, eh bien, il faut qu'il y ait une prise de conscience globale. Les choses n'arrivent pas toutes seules. Mmh. Les choses n'arrivent pas toutes seules. Il faut des fers de lance. Il faut des gens qui soient mobilisés, qui soient motivés et qui, en permanence, aient intégré non pas simplement l'envie de faire, mais l'intégration, je dirais, des grands enjeux qui sont ceux des 10, 15, 20 prochaines années, et de démarrer, je dirais, un projet de territoire dans cet esprit-là. J'entends beaucoup parler, par exemple, d'études. On va faire des études pour savoir si ceci, si cela. Non, à un moment donné, on porte une volonté politique. Cette volonté politique, on s'en sert, on s'appuie dessus. Les études viennent pour conforter éventuellement un dessin d'orientation du territoire tel qu'on l'imagine ou auquel on aspire. Autrement, on défend rien. Autrement, on rentre dans un carcan qui est un carcan technocratique. Et je pense que c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. On parlait un petit peu de la piscine, les difficultés qu'il y avait pu y avoir. Je dirais que quelque part, il y a certainement un petit peu de cette option-là. Et je pense que ce qui est important, c'est justement qu'on vive au regard d'un dessin de territoire, DE2SEIN.
Oui. Oui.
Et à partir de là, qu'on mette des outils à disposition.
Pas c'est d'avance. Pour ça qu'on aura peut-être les Jeux Olympiques en 2024.
Mais voilà,
le
pour
chrono,
moi,
le
mais
chrono,
les Jeux Olympiques, où est-ce
le
que j'explique ?
Le chrono contre la montre cycliste ?
Alors, voilà, le contre la montre cycliste, mais en soi, je vais peut-être en décevoir certains, mais je le voudrais pas trop quand même, mais en soi, avoir cette épreuve, c'est bien, c'est super, c'est génial, enfin c'est fabuleux, mais la question c'est, pourquoi on le fait ? Qu'est-ce qu'on cherche quand on fait ça ? Quand on met en place ou quand on cherche à défendre cette idée de faire venir sur le territoire une épreuve olympique ? Qu'est-ce qu'on recherche ? Parce que si jamais on n'est pas attaché à une option de destin du territoire associé à ce grand événement, eh bien, il va faire un flop, nécessairement. Moi, ce à quoi j'aspire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est à faire en sorte que notre territoire puisse associer, je dirais, deux grands axes, c'est la préservation de son environnement, de son territoire, alors sans parler écolo-bobo, hein, mais justement, de faire vivre ce territoire, d'accepter que parfois, quand on a une vache à côté de chez soi dans un champ, eh bien, elle puisse avoir des odeurs. Hein. Je me souviens du directeur en chef des monuments historiques qui un jour était venu faire une conférence à Rambouillet et qui expliquait que les nouveaux urbains en fait étaient atteints du syndrome de Marie-Antoinette. Alors tout le monde a pensé que Marie-Antoinette c'était lié au fait qu'à un moment donné il y a eu une révolution. Non, non, le syndrome de Marie-Antoinette c'est on veut bien les vaches. Mais on veut pas les odeurs. Et là, eh bien, notre territoire, il faut qu'il accepte aussi d'avoir les odeurs. Et pour prendre conscience de tout ça, il faut qu'on fasse découvrir notre territoire. Il faut que, par exemple, l'ONF accepte, de manière peut-être plus simple, de pouvoir ouvrir le massif forestier dont il a la gestion, la garde, en termes de préservation, en matière de biodiversité, tous ces éléments-là. Et la biodiversité, ça me connaît un petit peu, puisque nous avons à Bonnel une réserve naturelle régionale, oui. Qui est capitale régionale de la biodiversité, dont j'ai la responsabilité au travers de la région. Donc, franchement, ces outils-là, si on veut que demain les Rambolitains, les Sullivillois préservent leur environnement, eh bien, il faut qu'ils puissent rentrer dans l'environnement et faire vivre cet environnement.
Alors, justement, sur les autres manifestations sportives de Rambouillet, la plus célèbre, la plus ancienne, c'est le semi de Rambouillet. Il y a eu quelques difficultés pour le semi, hein, mais enfin, c'est reparti.
Oui, alors,
voilà.
Là-dessus, j'ai beaucoup de choses à dire, parce que c'est vrai qu'il y a 4 ans, nous avons été obligés d'annuler. c'était la première fois obligé d'annuler pour les questions.
Il y avait un gros coup de gueule d'Hervé Joly.
Ah bah oui, mais Hervé Joly, bah, il avait raison, enfin presque, il avait presque raison, on s'expliquait depuis.
Ça s'est arrangé tant mieux.
Mais quand on a une manifestation de cet ordre-là et qu'on découvre qu'on découvre des nouvelles contraintes liées à la sécurité, eh bien il faut le temps d'essayer de voir comment on peut apporter des éléments de réponse, comment on peut trouver les solutions à tout ça. Donc il a fallu sur une année qu'on annule le semi. Alors bien évidemment, ce que je disais tout à l'heure, à un moment donné, il faut que l'élu soit capable de pouvoir dire non. Et ben j'ai pris cette responsabilité avec le maire, mais de dire non, on ne fera pas. Par contre, ce qui avait été mal compris, c'est que au-delà de tout ça, j'avais ouvert la possibilité, notamment pour la Night and Day, c'est-à-dire pour Centrale Supélec, de pouvoir réaliser son épreuve, son raid en vallée de Chevreuse, et d'utiliser les infrastructures sportives. Et on s'est débrouillé pour qu'ils aillent jusque dans le parc du château. Mais justement, la grande différence, c'est que d'une part, il y avait moins de monde, parce que 2800 inscrits sur une course par rapport à 400 qui est la tare, enfin le volume on va dire bloqué sur la Night and Day, d'une part il y a le nom, mais autrement on a les moments de rassemblement étaient sanctuarisés dans des zones fermées, donc on pouvait se permettre. Mais là encore, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'objectif c'est pas de faire la Night and Day pour la Night and Day, là on se fait plaisir. La question c'est qu'est-ce qu'on veut faire de la Night and Day. Et moi ce que je veux, c'est cette possibilité de relier un centre qui est le premier centre européen de recherche et d'enseignement, qui est celui de Saclay, à celui de Rambouillet. De faire en sorte que demain, Rambouillet soit reconnu au travers de jeunes qui sont des porteurs, je dirais, de l'industrie de demain, de la stratégie de développement, je dirais, de l'activité économique sur ces écoles-là, notamment parce que la Night and Day, c'est Centrale Supélec, mais au-delà de Centrale Supélec, c'est Polytechnique, c'est HEC, c'est l'ESSEC, etc. Enfin bref, c'est toutes les grandes écoles. Et de faire en sorte de leur faire découvrir Rambouillet, pour moi, c'est la meilleure garantie que nous avons de pouvoir faire en sorte que ces décideurs de demain, ces élites de la décision, eh bien, reconnaissent le territoire comme étant un terrain de jeu à préserver dans un contexte de ruralité. Et c'est ça qui est important à prendre en ligne de compte. Donc, la Night and Day en soi, alors, ils sont tout à fait au courant, parce que tous les ans, je vais faire l'inauguration de la Night and Day, et puis après, de leur raid de Centrale Supélec qui a lieu cette année dans les Alpes. Mais on a donc des enjeux. À chaque fois, quand on se positionne, c'est au regard de ces enjeux-là qu'il faut pouvoir mettre en place des actions pour pouvoir faire vivre notre territoire. Et c'est ça, en tout cas, quoi je m'attache. C'est ça où, même si je ne suis pas, pour les raisons justement qui vont me permettre peut-être de me concentrer de manière un peu plus importante sur d'autres sujets, mais aujourd'hui, mon idée à moi, c'est de laisser la place, c'est de jouer une translation, c'est de faire en sorte que une nouvelle équipe aussi puisse prendre en charge justement les responsabilités qui m'avaient été confiées par, donc je le répète, par Gérard Larcher et puis par Marc Robert, et de faire en sorte qu'aujourd'hui, il y a un nouveau rebond qui se mette en place, mais en tout cas, je serai toujours attentif, toujours attentif à ce que ce qui se met en place sur le territoire ne soit pas lié à une dynamique technocratique, mais bien à une volonté, une vraie volonté farouche de pouvoir faire vivre notre territoire dans un contexte de ruralité, aux portes de Paris, avec toutes les pressions qu'il peut y avoir à côté.
Justement, deux minutes avant d'envoyer la deuxième page de pub, le meilleur symbole, c'est pas le tour Rambouillet territoire de notre ami Olivier Bourdin, qui est des grands rendez-vous
Olivier,
de l'année
merci,
sportive.
Hein. Merci Olivier, bah oui, merci oui. Didier Josset, merci, voilà. Je parlais tout à l'heure des bénévoles,
ouais,
mais bien évidemment,
hein.
Quand je parle de bénévoles, je parle de tous ceux aussi qui, en tant que bénévoles, sont attachés à faire vivre cette petite flamme qui anime le territoire. On dit donner une âme. Âme, c'est animation, c'est le fait de faire vivre un territoire. Et donc, oui, Olivier Bourdin, au travers des différentes épreuves, je dirais, de territoire qu'il met en place, bien évidemment, concourt à faire vivre le territoire et à faire reconnaître cette capacité du territoire à avoir un vivre ensemble, puisque c'est un terme consacré, mais c'est tellement plein de sens qu'à un moment donné, et puis Olivier, il a cette, je dirais que moi, nous avons cette chance, j'ai eu cette chance avec lui, d'avoir un homme de conviction, mais un homme de savoir, c'est-à-dire qu'il sait les choses. Il a eu un passé, je dirais, qui lui permet justement de bien appréhender les dimensions à la fois de la sécurité, mais en même temps, il est plein d'une envie farouche. Donc moi, ça m'avait permis justement, grâce à lui, par exemple, un petit clin d'œil, mais d'aller faire un tour de piste à Saint-Quentin.
Oui.
Et puis, c'était fabuleux. Quand on est à 8 mètres d'altitude, je vais dire ça comme ça, couché à l'horizontale sur le vélo, c'est des moments forts. Mais au-delà de tout ça, c'était aussi la possibilité de rencontrer rencontrer des gens comme Michel Callot, c'est Evelyne Sirieji, c'est en fait tous ces personnes, c'est Tony Estanguet que j'ai eu l'occasion de croiser, David Lapartien, et toutes ces personnes, moi je fais en sorte que à un moment donné, ils puissent être à nos côtés pour faire en sorte que notre territoire, eh bien, puisse continuer à vivre sur cet acquis, mais qui ne s'est pas fait sans douleur, parce qu'il y a eu des moments compliqués, évidemment, mais c'est cette note d'espoir qui, pour moi, est importante.
Bon, Stéphane, pas faire de jaloux, c'est à vous tour d'envoyer la pub.
Allez, eh ben, publicité, on se retrouve après.
Voilà.
Au cœur de la vallée de Chevreuse, les salons Léopold, le lieu idéal pour animer vos week-ends. Les salons Léopold vous proposent, les vendredis et samedis soirs de 19h30 à 2h du matin, un buffet à volonté fait maison, boissons comprises et soirée night club. Le dimanche, à partir de 11h30 à 18h, un brunch fait maison, avec les spécialités des fermes de la vallée de Chevreuse. Un salon de thé avec après-midi dansant et animation enfant. Les salons Léopold à Cernay-la-Ville, réservation et information sur www.salonleopold.fr et au 01 34 85 20 02. 01 34 85 20 02.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohard, pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur, Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur, Sébastien Mohard, 13 bis rue de la Libération, à Sonchamp.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11.
RVE, vivez votre région. Sur radio-rve.com.
Tu dors peut-être. Moi je ne peux pas. Par la fenêtre, je vois la terre en bas. Ici tout me dépasse, même le silence et les aiguilles qui passe sur ton absence. À quoi tu rêves? As-tu des envies? Connais-tu la fièvre? Froisses-tu ton lit? Le monde est tellement con, j'ai envie de partir d'ici. Mon c'est ridicule, mais c'est plus fort que moi. Je déambule, je fais le tour de moi. Et si tout me dépasse, c'est que je suis un lâche, comme ces aiguilles qui passent. Autant qu'il nous détache. Le monde est tellement con, j'ai envie de partir d'ici. M'en aller sans raison, ne plus donner signe de vie. Respirer d'autre pas, essayer d'autres lits. Me perdre par hasard, oublier qui je suis. Oublier qui je suis. Oh, tu dors.
Le monde est tellement con, j'ai envie de partir d'ici. le sport dans votre région avec RVE.
Bon, on va remercier Gaël Barbotin d'avoir été notre invité ce matin. Gaël, juste 30 secondes, la démission de Didier Gaillaguet de la Fédération française des sports de glace est amplement justifiée et méritée.
Eh bien, dans la mesure où on a une responsabilité de président à un moment donné et qu'on n'a pas su tirer en amont, certaines réalités, eh bien, il y a des décisions qui s'imposent et qui théoriquement doivent grandir l'homme. Malheureusement, ça s'est fait dans des conditions qui le rapetissent un peu plus. Et c'est ça qui est un peu dommage. En tout cas, on a eu une ministre des Sports que j'ai eu l'occasion de croiser, notamment à Saint-Quentin en Yvelines, qui a très bien joué, son rôle de ministre et de catalyseur pour pouvoir faire en sorte que à la fois le droit, mais au-delà de, enfin, se mettre en route, et puis qu'au-delà de tout ça, l'éthique sportive soit préservée.
Merci Gaël d'avoir été donc notre invité. Merci Stéphane, très brillamment.
Oui, très brillamment. Bah, pour revivre un peu l'aventure sur le site Le Rendez-vous de la Reine de Rambouillet, ouais. Il y a le forum qui relate nos exploits. Et puis j'invite Gaël à venir découvrir les petites routes de notre région.
Toujours avec plaisir.
Merci messieurs d'avoir été nos invités pour cette émission du 9 février.
Merci Philippe.
La semaine
merci
prochaine, beaucoup. Sport féminin. Et merci à Guillaume d'avoir été une nouvelle fois brillamment aux manettes. Bon dimanche à tous et à toutes.
Régional, national et international dans Tribune Sport. Avec Philippe Carnu. RVE, il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. 35 départements au total sont donc en vigilance orange ce matin face à la tempête Ciara qui touche la moitié nord du pays. Selon Météo France, on attend des rafales jusqu'à 120 voire 140 km/h. Le plus gros de l'épisode est attendu ce soir, mais ce matin déjà il y a des vents, un phénomène qui provoque aussi un risque de vague submersion sur la Manche et la Bretagne. L'alerte enlèvement a été déclenchée hier soir pour tenter de retrouver un bébé âgé de 1 an. Vanny a été enlevé à Angers vendredi dans le Maine-et-Loire par sa mère, une femme de 40 ans qui aurait des problèmes psychologiques. La petite fille de type métis mesure 1 mètre, aux yeux noirs, cheveux couleur brun foncé, court et frisé. Si vous localisez l'enfant ou la mère, n'intervenez pas vous-même et appelez immédiatement le 197. Le président de la Fédération